Vous écoutez France Culture.
Il est midi et demi sur France Culture. Tout de suite le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. À la veille de la mobilisation des Gilets jaunes, demain à Paris, point d'orgue d'une semaine de blocage un peu partout en France. Le gouvernement tente encore de désamorcer la crise. Emmanuel Macron précisera mardi prochain le cap et la méthode qu'il souhaite adopter en lien avec les corps intermédiaires et les citoyens pour mener à bien une transition écologique, je cite, équitable et juste. En revanche, les annonces ne devraient pas remettre en cause la hausse de la fiscalité écologique et puis signe de la fébrilité de l'exécutif pour éviter une convergence des luttes, incitant les routiers à entrer dans la contestation. Le gouvernement aurait décidé de reporter la vignette poids lourd censée entrer en vigueur en 2020.
Une double attaque meurtrière aujourd'hui au Pakistan.
Oui, la première dans le nord-ouest du pays a fait au moins 31 morts et plus de 50 blessés. La deuxième au sud, dans la mégapole de Karachi, visait le consulat de Chine. Bilan 4 morts, 2 policiers, 2 civils.
C'est aujourd'hui le jour des super soldes du Black Friday.
Et l'occasion était trop belle pour les salariés du plus grand centre logistique d'Amazon en Espagne pour ne pas réclamer de meilleurs salaires et conditions de travail à travers un mouvement de grève.
Enfin, invité de votre page Europe du vendredi dans une vingtaine de minutes.
Nicolas Bay, député européen Rassemblement National. Et puis à 12h55, Olivier, ce sera la grande table des idées.
À qui profite la culture? On parle avec notre invité, le sociologue Olivier Donna. Il reviendra sur les nouvelles pratiques culturelles des Français et sur les difficultés à rendre réelle, concrète la démocratisation culturelle, une ambition portée pourtant décennie après décennie par les différents ministères.
Merci et à tout à l'heure. Mais avant de débuter ce journal, pourquoi pas un peu d'autopromotion, et ce n'est pas parce que c'est aujourd'hui Black Friday, mais parce que ce matin même a été lancé un nouveau média social. Son nom, Culture Prime, Radio France, mais aussi France Télé, France Média Monde, Arte, Lina et TV5 Monde. Autrement dit, les 6 entreprises de l'audiovisuel public se sont en effet associées pour donner naissance aujourd'hui à un média social culturel. Alors de quoi s'agit-il exactement? Pour le savoir, nous sommes en direct avec Sandrine Trainer, directrice de France Culture, et Michel Field, ex-chroniqueur à Panorama pour nos plus fidèles auditeurs, mais surtout actuel responsable culture pour France Télévisions. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Concrètement, à quoi va ressembler cette nouvelle offre culturelle?
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Bien, en fait, il s'agit d'un engagement supplémentaire en faveur de la culture. Vous savez, le slogan de cette nouvelle offre, c'est la culture, ça se partage. Alors évidemment, pour France Culture, ce n'est pas un scoop, pourrait-on dire. Ce qu'il est bien davantage, c'est de voir l'ensemble des entreprises de l'audiovisuel public, c'est-à-dire tout Radio France, France Télévisions, TV5 Monde, Lina, Arte. Et France Média Monde se mettre tous ensemble au diapason pour proposer une nouvelle offre en direction des réseaux sociaux que Michel Field va vous présenter.
Oh ben le principe en est simple, hein. Chacun avec son identité propre va élaborer des petites pastilles, on appelle ça des modules, on appelle ça des sujets vidéo, audio, écrit, ce qu'on trouve aujourd'hui dans les réseaux sociaux, va les poster sur sa page Facebook et puis petit à petit sur tous les autres réseaux sociaux. Et les autres partenaires vont partager ça, cross-poster, comme on dit dans le langage numérique d'aujourd'hui. Ça veut dire que chaque institution travaille pour elle-même et aussi pour les autres. Donc c'est un peu les synergies qu'on demande aujourd'hui à l'audiovisuel public. Et sur le plan culturel, c'est vrai que ça permet aussi de valoriser les offres générales de la culture, surtout les services publics. Et merci de ce lancement de tout à l'heure, car il y a longtemps que je n'avais pas parlé sur France Culture à midi et demi. Vous avez raison, ça me rappelle ma jeunesse.
Alors, est-ce qu'à l'heure des médias sociaux, à travers ce nouveau-né, il faut en déduire qu'il existe une culture globale?
Il faut se dire en tout cas que on peut constituer quelque chose qui est de l'ordre d'une offre globale culturelle dès lors que chacun selon ses spécificités, France Culture comme vous le savez, Thomas Cluzel s'appuyant sur les savoirs et la connaissance, Lina sur son fond d'archives, France Média Monde sur son ouverture au monde de la francophonie, pour ne citer que cela, se mettent ensemble pour proposer selon sous un même format avec un label commun et une identité graphique commune, un projet d'union de nos forces et de nos puissances, oui.
Et il y a un défi pour nous tous, c'est d'aller chercher les publics qui se sentent exclus de l'offre culturelle de nos antennes, les jeunes, ceux qui socialement ne sont pas immédiatement en rapport avec le monde de la création et de la culture, aller les chercher là où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, dans les langages qu'ils entendent, c'est-à-dire ces petites formes brèves, quelquefois décalées avec humour, et les ramener d'un certain point de vue, ou en tout cas les sensibiliser à la pléthore d'offres culturelles que nous offrons les uns et les autres sur nos antennes et dans nos programmes.
Oui, parce que il n'y a pas. Je reprends votre question initiale qui est extrêmement pertinente. Il n'y a pas de. On n'est pas ensemble pour proposer une seule vision de la culture. Il n'y a pas de culture d'État. La culture dans le service public, c'est une conviction, c'est un engagement, mais ce n'est pas un positionnement unique. Et c'est bien dans la complémentarité de ce que nous proposons les uns et les autres que nous allons nous adresser au public. Du numérique.
Une dernière question, ce nouveau média social est un point d'entrée vers l'intégralité des contenus et offres culturelles du service public. Est-ce aussi un point d'entrée vers la réforme de l'audiovisuel public qui doit être votée l'an prochain et l'éventuelle réunion de l'ensemble des groupes publics ?
Non, très franchement, je crois qu'il faut dissocier les deux. Vous savez, moi j'ai la chance depuis 3 ans que je suis à France Télévisions d'avoir été d'une part à l'origine d'un nouveau média social global qui était France Info et déjà en partenariat avec votre maison. C'est le deuxième acte d'une synergie du service public encore plus large puisqu'il y a 2 acteurs nouveaux. Je crois que c'est ça en fait qu'on doit montrer aujourd'hui, la capacité de l'audiovisuel public à garder ses identités propres et en même temps à faire des projets qui nous mettent en synergie et qui nous permettent d'avancer en offrant des offres communes.
Et j'ajouterais simplement une phrase qui est que, vous savez, avec nous, avec les 6 entreprises de l'audiovisuel public, il y a aussi les grandes institutions culturelles que sont le Centre Pompidou, la Comédie Française, la Bibliothèque Nationale de France et quelques autres, ceux qui montrent le Louvre et l'Opéra de Paris, ceux qui montrent que vraiment notre ambition à nous, c'est de travailler tous ensemble le service public de la culture pour amener la culture vers le plus grand nombre.
Merci Sandrine Trainer et Michel Field d'avoir été en direct depuis le Centre Pompidou donc pour le lancement officiel de Culture Prime. Et merci également à Stéphane Beaufis pour les moyens techniques. Veillée d'armes dans la capitale pour les Gilets jaunes, lesquels ont finalement été autorisés à se rassembler demain sur le Champ de Mars, du nom du dieu romain de la guerre. Le gouvernement leur ayant finalement refusé l'accès à la pourtant bien nommée place de la Concorde, symbole de la réconciliation des Français après les excès de la terreur. Pour autant, et signe de son aspiration à la pacification, l'exécutif continue de répéter à qui veut bien l'entendre qu'il a reçu le message des citoyens et même qu'il réfléchirait à une sortie de crise. Après les mesures financières d'accompagnement annoncées la semaine dernière, lesquelles n'ont pas suffi à calmer la colère des manifestants, après la valse hésitation autour des propositions du leader de la CFDT de construire un pacte social de la conversion écologique hier soir, ultime contre-feu, l'entourage du chef de l'État a fait savoir qu'Emmanuel Macron présenterait mardi prochain un nouveau plan pour rendre, je cite, la transition écologique acceptable. En revanche, l'information ce matin de nos confrères de France Info, selon laquelle le gouvernement aurait décidé de reporter jusqu'à nouvel ordre la création d'une vignette poids lourd, vient à tout le moins obscurcir un peu plus encore la stratégie de l'exécutif. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors on comprend bien pourquoi le gouvernement a choisi de renvoyer cette mesure à une date ultérieure. Il convient d'éviter à tout prix que les routiers ne rejoignent en masse les barrages. Sauf que le report de cette vignette, qui était censé rapporter 500 millions d'euros par an dans les caisses de l'État, n'est pas le plus probant des messages en termes d'attachement à la transition écologique.
Force est de constater en tout cas que le gouvernement a du mal à faire contribuer le secteur routier à la transition écologique. C'est ce que dit le report de cette vignette qui devait pourtant rapporter 500 millions d'euros, une taxe évoquée depuis très longtemps, depuis le fiasco de l'écotaxe en 2013. Les gouvernements successifs ont depuis lors essayé d'imaginer diverses formes de contribution pour trouver de quoi financer les infrastructures routières et initier une vraie transition des mobilités. Mais à chaque tentative, il y a eu reculade parce que le secteur routier a les moyens de se faire entendre. Il est très actif en termes de lobby et il brandit rapidement notamment la menace du blocage, des blocages qui non seulement sont efficaces, mais peuvent aussi s'avérer coûteux pour plusieurs pans de l'économie française, notamment le secteur de la grande distribution. Cela fait plusieurs jours donc que les fédérations de transporteurs routiers, plus particulièrement l'OTRE, l'Organisation des transports routiers européens, menacent de rejoindre le mouvement des Gilets jaunes si cette vignette était comme elle devait l'être intégrée à la proposition de loi sur les mobilités, proposition présentée lundi. Ce gouvernement, comme les autres avant lui, semble tétanisé sur cette question. L'abandon de l'écotaxe en avait été, rappelez-vous, un exemple frappant. Elle était pourtant prévue dans la loi Grenelle sur l'environnement. Loi qui faisait le constat à l'époque qu'une tonne de marchandises transportée sur 350 km coûte 20 euros en transport fluvial, 27 euros en train et 33 euros par la route, sans inclure les coûts écologiques. Aujourd'hui, le fret fluvial et ferroviaire sont en net recul. Par ailleurs, non seulement cette écotaxe n'a pas rapporté les 1200 millions d'euros espérés, mais elle a coûté près de 800 millions d'euros à l'État français. Nombreux sont pourtant les analystes qui font le constat que le secteur routier n'est plus viable par bien des aspects, notamment face à la concurrence et au coût extrêmement bas de la main-d'œuvre venue d'Europe de l'Est.
Merci Anne-Laure Choin. Alors le report de cette vignette résonne, vous l'avez dit, comme un lointain écho de la suppression de la fameuse écotaxe face à la protestation des bonnets rouges. Or, cette décision apparaît d'autant plus étonnante de la part de l'actuel gouvernement que le mois dernier, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition avait elle-même jugé que l'abandon de l'écotaxe par Ségolène Royal avait représenté à l'époque, je cite, une double punition pour le portefeuille des Français et pour la planète. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
On le voit, le gouvernement semble aujourd'hui plus que jamais naviguer à vue. Est-ce qu'au fond, le problème pour Emmanuel Macron, au-delà de cette difficulté évidente à ne pas pouvoir négocier avec un interlocuteur identifié, ne tient pas aussi à cette volonté farouche de se distinguer coûte que coûte de certains de ses prédécesseurs en refusant de céder?
Oui, le chef de l'État, comme son Premier ministre, essaie de rester ferme, de ne pas céder, mais on perçoit quand même une certaine fébrilité face à un mouvement dont ils ont du mal à comprendre pourquoi il dure et pourquoi il reste populaire dans l'opinion. Et on peut voir ça au changement de pied qui s'est opéré en une semaine. Avant la première mobilisation de samedi dernier, le Premier ministre Édouard Philippe avait pris les devants et avait annoncé un certain nombre de mesures pour essayer d'amoindrir la potentielle mobilisation. Création d'une surprime pour changer de voiture, on passait de 2000 à 4000 euros. Le chèque énergie également était abondé de 50 euros pour aider les personnes les plus en difficulté. Au total, l'enveloppe représentait une aide de 500 millions d'euros supplémentaires. Pour autant, ça n'avait pas eu l'effet escompté. Les Gilets jaunes s'étaient mobilisés dans toute la France. Une mobilisation qui a duré toute la semaine et qui menace de repartir de plus belle ce week-end. Du coup, cette fois, c'est Emmanuel Macron qui monte au créneau, mais plutôt que d'annoncer un certain nombre de choses en amont et se retrouver après coup à n'avoir plus rien à offrir pour apaiser la situation, il annonce qu'il fera des annonces la semaine prochaine. Autrement dit, il gagne du temps en espérant que sur le terrain, la mobilisation et la tension retombent petit à petit. Et puis, il y a aussi cette porte qui semble s'entrouvrir à nouveau en direction des syndicats après la main tendue du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. On voit donc que des mouvements s'opèrent pour essayer de trouver une solution. Pour autant, le chef de l'État et son gouvernement peuvent-ils reculer sur la hausse des taxes sur le carburant? Peuvent-ils renoncer à la nouvelle hausse prévue début janvier? La réponse est non, parce que ce serait donner le signal qu'on peut stopper le train de réforme lancé par le président de la République depuis son élection. Ce serait donner un coup d'arrêt à la transformation en profondeur du pays promise par Emmanuel Macron. Ce serait stopper la marche en avant lancée il y a un an et demi. Ce serait faire comme François Hollande et se condamner à l'impuissance politique. D'où ces annonces au compte-gouttes et cette inquiétude du pouvoir exécutif.
Merci Stéphane Robert. Alors que le congrès du PCF, qui s'ouvre aujourd'hui pour 3 jours à Ivry-sur-Seine, est censé achever une délicate passation de pouvoir entre l'actuel secrétaire national Pierre Laurent et Fabien Roussel, les communistes espèrent chasser leurs doutes, mais le spectre de la division pourrait finalement ressurgir s'agissant de la question de l'autonomie des communistes aux européennes. Et puis alors que les écologistes semblent attirer de plus en plus d'électeurs, du moins à en croire les derniers scrutins organisés le mois dernier en Bavière, en Belgique et au Luxembourg, les Verts européens élisent aujourd'hui à Berlin leur candidat tête de liste pour les élections européennes. Après avoir déjà trouvé un accord sur les termes du divorce la semaine dernière, le gouvernement britannique et les Européens sont parvenus à un deuxième accord hier, s'agissant cette fois-ci de leurs futures relations à la fois économiques et stratégiques. Deux arrangements que les chefs d'État et de gouvernement des 27 devront toutefois encore valider dimanche lors d'un sommet extraordinaire à Bruxelles. Alors pour l'heure, le chef du gouvernement espagnol a répété hier qu'il opposerait son veto si l'Espagne n'obtient pas gain de cause sur la question de Gibraltar et puis surtout compte tenu de l'implacabilité de l'arithmétique parlementaire, la ratification de l'accord côté britannique semble sérieusement compromise.
France Culture, il est presque 12h45, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Au Pakistan, au moins 31 personnes ont été tuées, plus de 50 autres blessées ce matin lors d'un attentat dans un marché des zones tribales dans le nord-ouest du pays où les talibans et Al-Qaïda ont longtemps opéré en toute impunité. Puis toujours au Pakistan, mais dans le sud du pays, cette fois-ci à Karachi, la plus grande ville, le consulat de Chine a été la cible aujourd'hui d'une attaque ayant fait 4 morts. Cette attaque a été revendiquée par un mouvement séparatiste, l'armée de libération du Baloutchistan, qui qualifie Pékin d'oppresseur. Il faut dire que la Chine, en tant que premier partenaire économique du Pakistan, a investi des dizaines de milliards de dollars dans ce qu'on appelle le corridor économique, qui vise à relier la province occidentale du Xinjiang au Baloutchistan. Pékin a donc bien entendu fermement condamné cette attaque et demandé à Islamabad de prendre des mesures concrètes pour assurer la sécurité de ses citoyens. C'est une correspondance à Pékin signée Dominique André.
La Chine condamne fermement l'attaque contre son consulat à Karachi. Le ministère des Affaires étrangères affirme que tout le personnel ainsi que les familles sont désormais en sécurité. La zone a été bouclée autour de la représentation diplomatique chinoise. 2 policiers pakistanais sont morts ainsi que 2 civils. Les 3 assaillants étaient équipés de kalachnikov et de grenades. Ils ont été tués avant de pénétrer dans le consulat. L'attentat est revendiqué par l'ALB, l'armée de libération du Baloutchistan, une province du sud-ouest du Pakistan, l'une des plus pauvres du pays malgré la présence d'importants gisements gaziers et miniers. Le porte-parole du mouvement séparatiste affirme avoir agi contre la Chine, qu'il qualifie d'oppresseur tout comme les forces pakistanaises. En août dernier, l'ALB avait mené un attentat suicide contre un bus qui transportait des ingénieurs. 3 Chinois avaient été blessés. La Chine est un proche allié du Pakistan et surtout un point phare du projet des nouvelles routes de la soie lancé par Xi Jinping en 2013. Pékin veut relier le Xinjiang, province ouïghour du nord-ouest de la Chine, à l'océan Indien en ressuscitant une vieille route commerciale de 2000 km de long. Ce débouché donnera aux produits chinois un accès direct à la mer d'Arabie et permettra à la Chine d'être approvisionnée en pétrole sans passer par le détroit de Malacca. Mais ce projet stratégique se heurte aux conflits locaux, notamment au Baloutchistan.
Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, est arrivé hier soir à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Première étape d'une tournée dans les pays arabes destinée à redorer son image maculée du sang du journaliste assassiné Jamal Khashoggi. Son nom de Vendredi Noir n'aura sans doute jamais aussi bien porté son nom, du moins pour Amazon, parce qu'ils n'ont pas réussi jusqu'ici à se faire entendre. Les salariés du plus grand centre logistique de la plateforme en Espagne ont entamé un mouvement de grève ce vendredi, autrement dit le jour des supersoldes du Black Friday. Il réclame de meilleurs salaires et conditions de travail. C'est une correspondance à Madrid signée Marie-Hélène Ballistero.
Cela fait 8 mois que le conflit perdure. C'est d'ailleurs la 4e grève déclenchée par les travailleurs du centre logistique de San Fernando de Henares, près de Madrid, depuis le mois de mars. Il s'agit du premier site du groupe qui a ouvert ses portes en Espagne en 2012 et actuellement le plus grand centre logistique d'Amazon dans ce pays, avec 2000 employés. Des salariés qui protestent toujours contre la pénibilité de leurs conditions de travail, qui n'ont fait qu'empirer d'après eux, après la mise en place unilatérale d'une nouvelle convention collective. Après un processus de médiation et de négociations ouvertes ces derniers mois avec la direction du géant américain qui s'est révélé infructueux, les syndicats ont donc une fois de plus appelé à la grève. Mais ils craignent que l'entreprise puisse saboter cette journée de mobilisation comme elle l'a déjà fait pendant le Prime Day, en détournant les colis expédiés vers d'autres centres logistiques en Espagne afin que les clients ne remarquent pas les effets de la grève. Mais les salariés comptent bien tenir tête et obtenir gain de cause, c'est-à-dire de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. En attendant, d'autres journées de grève sont déjà prévues en décembre et notamment avant les fêtes de Noël.
Comme chaque vendredi, invité à présent de notre page Europe, Nicolas Bay, député européen Rassemblement National. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés, pour vous interroger, Sophie Delpont. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie, une première question monsieur Bay. S'agissant des réponses que le gouvernement prétend apporter au mouvement des Gilets jaunes, comment jugez-vous l'annonce ce matin de reporter la vignette poids lourd ?
On voit que le gouvernement essaye d'éteindre l'incendie et d'empêcher de s'exprimer une indignation très profonde et très légitime des Français face à une politique qu'ils jugent profondément injuste. Et donc le gouvernement multiplie des annonces de mesurettes qui sont absolument dérisoires par rapport à la souffrance extrêmement profonde de ces classes populaires, de ces classes moyennes qui sont les grandes oubliées des politiques publiques depuis de nombreuses années, mais peut-être plus encore depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. On demande aux Français de travailler plus longtemps, on leur demande que leur pension de retraite soit plus faible, on augmente les taxes et les impôts, le pouvoir d'achat est en berne, le chômage continue d'augmenter, 90 000 chômeurs supplémentaires depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, toutes catégories confondues, et on a un gouvernement qui est totalement sourd à cette souffrance des Français. Ils se rendent pas compte que ceux qui prennent leur voiture, c'est pas pour les loisirs dans l'immense majorité des cas, c'est par obligation absolue, pour travailler, souvent même pour rechercher du travail. C'est ceux qui habitent en zone rurale et qui sont obligés, dans le cadre de leur métier, je pense aux artisans et commerçants, d'utiliser leur véhicule. C'est aussi les mères de famille qui emmènent les enfants à l'école, qui peuvent pas faire autrement. Ils vont pas y aller en trottinette électrique, ils vont pas y aller en Zoé, comme le dit Benjamin Griveaux il y a quelques jours. Donc on a le sentiment que le gouvernement est totalement déconnecté. Ils sont sûrs et prétentieux d'ailleurs dans la politique qu'ils mènent et totalement insensibles à la souffrance du peuple. Eh bien, aujourd'hui, c'est le peuple qui se lève et qui s'exprime.
Mais s'agissant de la vignette poids lourd, diriez-vous qu'il y a, j'allais dire, un deux poids, deux mesures ?
Non, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est de défendre une véritable écologie qui passerait notamment par la taxation des poids lourds étrangers qui circulent sur le sol français, par exemple. Et puis qui nécessiterait aussi d'en finir avec le modèle du libre-échange international totalement débridé. Parce qu'aujourd'hui, on fait de l'écologie punitive. On dit à Monsieur Durand qui utilise sa Twingo pour aller travailler qu'il doit changer de voiture et ça lui coûtera très cher, ou qu'il ne pourra plus utiliser sa voiture, ou qu'il ne pourra plus entrer dans les centres-villes parce qu'il y aura des péages urbains. Et dans le même temps, on a 50 000 supertankers qui sillonnent toute la planète, toute l'année. Chaque supertanker, il pollue autant que 50 millions de voitures individuelles, c'est-à-dire la totalité du parc automobile qui circule en France. Et ce modèle-là, qui consiste à fabriquer des produits manufacturés en Chine, à les vendre en Europe, à retraiter un certain nombre de ces produits à l'autre bout du monde, en Afrique par exemple, eh bien c'est ce modèle-là qui est authentiquement anti-écologique. Et ça, personne n'en parle. Ni Nicolas Hulot hier à l'émission politique, ni les accords de Paris qui font délibérément l'impasse sur ce problème-là, ni aujourd'hui le gouvernement qui est acquis à la logique mondialiste ultralibérale et qui ne veut rien remettre en cause de ce modèle qui est authentiquement anti-écologique.
Une question de Sophie Delbon.
Oui, bonjour Nicolas B.
Bonjour.
Le Rassemblement National présentera sa liste aux élections européennes le 13 janvier prochain. Louis Alliot a déjà annoncé qu'il ne serait pas tête de liste. Vous êtes sur les rangs. On parle également de Jordan Bardella, qui a seulement 23 ans, qui est étudiant en géographie, qui chapeaute la structure Génération Nation, qui donc organise les jeunes du RN. On en est où ?
Eh bien, ça va faire l'objet de débats, de discussions au sein du mouvement. Vous savez, le Rassemblement National a des instances, un bureau exécutif, un bureau national, qui vont pouvoir débattre de la meilleure formule. On pourrait avoir une tête de liste extérieur au mouvement, qui symbolisera le rassemblement. On peut avoir aussi, c'est ce que semble privilégier Marine Le Pen, une tête de liste issue du Rassemblement National. Moi, j'ai fait savoir que dans ce cas-là, j'ai pas le sentiment d'être ni le moins légitime, ni le moins bien placé, compte tenu de mon parcours et des responsabilités que j'occupe, notamment comme président de notre groupe au Parlement européen. Mais voilà, je crois que c'est un débat qui aura lieu à l'intérieur du mouvement. Il y en a qui, aujourd'hui, se croient obligés d'exprimer un peu à l'extérieur, dans les médias, qui doit être candidat, qui doit pas l'être. Je pense que c'est pas la bonne manière de procéder. Voilà, on peut montrer qu'on est un grand mouvement mature et qu'on va avoir ces débats à l'intérieur de nos instances et qu'ensuite on les rendra publics au mois de janvier.
Alors Nicolas B, vous dites un grand mouvement mature où il y a eu des défections en cascade ces derniers mois, notamment par le Parlement européen dont vous faites partie, des personnes qui ont rejoint notamment Florian Philippot. On est également dans une situation qui est compliquée au niveau du Rassemblement National avec ces mises en examen donc de Marine Le Pen. Vous êtes également mise en examen dans cette affaire. Faire donc des emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires. Il y a également cette saisie de la justice, 1 million d'euros. Donc les finances, c'est compliqué aussi pour vous. Comment vous abordez ce scrutin ?
Avec combativité, parce que aujourd'hui vous essayez par vos propos de faire croire que le Rassemblement National sera en difficulté. Non, il est attaqué. C'est différent. Il n'est pas en difficulté. On est en tête dans toutes les intentions de vote aux élections européennes. En réalité, les Françaises et les Français attendent beaucoup du Rassemblement National. Alors, on a des magistrats politisés qui utilisent l'institution judiciaire pour nous combattre. Ça, c'est une évidence. Et ça dure depuis quelques années. Et malheureusement, je crains que ça ne continue. Et on va évidemment se défendre. Vous avez cité quelques défections. Elles sont d'abord en très petit nombre. Vous savez, le Rassemblement National, aujourd'hui, c'est 2000 élus. Voilà, vous en avez une poignée qui sont partis. C'est dommage. Moi, je m'en réjouis pas. Mais
ça
va absolument rien changer à la dynamique aujourd'hui qui est autour de, non seulement de notre mouvement, mais partout, qui s'exprime partout en Europe. Parce que il y aura un débat clair aux européennes. Vous avez Emmanuel Macron, il l'assume d'ailleurs, qui va défendre le fédéralisme européen. Il veut même que les fonctions les plus fondamentales de l'État, l'armée, soient entre les mains demain de la Commission européenne. C'est Jean-Claude Juncker ou son successeur qui va décider de verser le sang des soldats français. Ce qui est évidemment dramatique. Ce modèle de l'intégration européenne aller toujours plus loin dans le fédéralisme, c'est précisément le modèle dont les peuples ne veulent plus. Et ça s'exprime partout en Europe, en Hongrie, en Pologne, en Italie, où nos alliés sont au pouvoir, où nos idées sont au pouvoir. Et de l'autre, il y aura notre projet d'une Europe des nations et des protections. C'est pas simplement un slogan, ça peut être demain une réalité bien concrète, des coopérations sur les grands défis, protéger les frontières extérieures, défendre notre identité, assurer la sécurité alimentaire, protéger les données numériques personnelles. Voilà. Tout ça, c'est des grands défis qui nécessitent des coopérations à l'échelle continentale, mais pas ce modèle de la Commission européenne qui détient tous les pouvoirs, qui fonctionne de façon punitive, qui refuse le verdict des urnes dans les États membres et qui, aujourd'hui, a organisé l'impuissance collective de nos nations. Voilà. On doit construire une Europe qui soit à la hauteur du génie de notre civilisation, qui soit capable de rayonner à nouveau à travers le monde avec cette organisation technocratique. Ça n'est plus le cas depuis 60 ans, mais ça, c'est l'Union européenne. Nous, ce qu'on défend, c'est la vraie Europe, celle des nations.
Merci Nicolas Bay, eurodéputé, je le rappelle, Rassemblement National, et merci à vous Sophie Delpont.
Merci.
On termine avec un mot rapide du temps pour aujourd'hui. Perturbé sur la plus grande partie du pays, une vigilance orange, orage, inondation a été lancée sur les départements du Gard et du Var. Les températures, elles seront comprises entre 5 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par François-Charles Domergue à 18h. Vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.